pense que c'est difficile de commencer comme ça tout de suite là. Après, il y a sûrement quelqu'un qui va. Patrick. Voilà.
Help. Bon, moi, je vais poser une question simple. Si. Agnès, qui a développé qui a fait le commentaire du texte, et puis à Martine, qui a aussi un peu repris ça. L'amour, certes, fait signe. Agnès, tu ne nous as pas précisé de quoi l'amour nous fait signe. Tu as dit des choses sur la signification, mais... voilà.
On a quelques autres questions à se dire.
Alors,
on va pas faire comme le rabbin qui a une question.
Juste une remarque par rapport aux trois exposés, c'est qu'au fond les deux premiers nous ont fait bien rire et que le dernier était plutôt glaçant. Alors, et les deux parlaient d'amour, donc il y a quelque chose là qui est sûrement lié à la structure également, mais enfin il y a aussi des histoires d'amour qui finissent vraiment mal, oui, en effet. Oui. Mais quand même c'est une question par rapport justement à ces deux facettes de l'amour, hein, dans leur...
micro, alors je le prends. Oui, en fait, c'est une... ce que disait juste à l'instant Nadine me faisait me souvenir de cette phrase de Lacan qui m'avait arrêtée il y a très longtemps. Où il dit que dans la psychose, l'amour est un amour mort. C'est-à-dire qu'il ne considère pas Lacan, et je crois qu'il n'a jamais considéré que la dimension de l'amour était identique dans la psychose et hors psychose. Hein, donc ça, ça ne veut pas dire que ça illumine la phrase « l'amour est un amour mort », mais enfin, bon, c'est un axe de réflexion possible. Moi, j'ai, en écho un peu à ce que disait Martine, j'ai toujours trouvé, même au moment où Lacan parle presque comme Freud, presque, j'ai toujours trouvé que les développements de Freud étaient très hétérogènes par rapport à ceux de Lacan. Même, tout ce que Freud a dit, que vous avez rappelé, qu'il faut connaître, évidemment, mais j'ai trouvé toujours perçu qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, l'un et l'autre. Et ça devient patent au fur et à mesure que Lacan... et moins vraiment les pas dans les pas de Freud. Et au fond, je me disais, le point vraiment où ça commence à diverger, qui est très visible dans la formule que vous avez rappelée, donner ce que l'on n'a pas, ça ne peut pas rentrer dans l'amour réciproque. Plutôt, ça ne peut pas rentrer dans la thèse que l'amour réciproque veut dire l'amour au niveau imaginaire. Hein ? Et donc Lacan, finalement, la vraie différence avec Freud, me semble-t-il, c'est qu'il s'est interrogé, lui, sur la source de l'amour, d'où ça vient, qu'est-ce qui produit l'amour, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette dimension presque inévitable chez les humains de l'amour. Et sa réponse, évidemment, de celle que vous avez dit, elle est dans le texte, c'est que ça vient de l'autre, ça vient de l'autre grand A, la faille qui est dans l'autre. Donc c'est une raison de structure. Et la raison de structure, c'est le manque à être. Et dès qu'on a posé ça, je trouve, autant j'ai trouvé très bien votre commentaire sur la réciprocité, mais dès qu'on prend sérieusement ça au sérieux, ça devient très difficile de commenter la réciprocité là où c'est possible de la commenter facilement, au niveau imaginaire, le miroir, à quelle hauteur elle est, peu importe, mais parce que là, on entre dans un registre qui est beaucoup plus dépendant du symbolique, en fait. Et c'est sans doute pour ça aussi que la psychose fait une différence. Alors peut-être ça aide à répondre de quoi fait signe l'amour. Je vais vous laisser répondre.
Non, non, je vous en prie. Après vous, madame.
Tout à l'heure.
Non, justement, je vais répondre à ça, en tout cas. Je crois que... Si je me suis arrêtée, j'étais très contente de trouver le fessine, c'est une signification, donc je n'ai pas exploré plus notre, parce que c'est un texte très difficile pour moi en tout cas. Au début je voulais même l'appeler « Il n'y a pas de rapport textuel » parce que on le lit pas, on le comprend pas en le lisant, il faut le décortiquer et donc c'est peut-être je ne l'ai pas assez décortiqué puisque je me suis saisie de ça. Ce que je voulais essayer de cerner, c'est ce qui m'intéresse maintenant, c'est la question des rapports entre amour et désir et comment le désir qui est métonymique est fixé par l'amour. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de saisir cette question de l'amour qui fixe, hein, la signification par rapport au sens. Mais en effet, de quoi l'amour est le signe, la réponse évidente qui vient, c'est le signe d'un sujet. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? Si, ça dit quelque chose. Ça veut dire que l'amour, c'est un... oui, et puis aussi, c'est un phénomène du sujet, l'amour. Hein, c'est ça. C'est un phénomène du sujet et du sujet barré, divisé. Voilà. Ça va.
Nadine, Valmont, Tourvel, tout ça, ce ne sont pas des psychotiques. Enfin, en tout cas, je ne les vois pas comme ça. Et ça finit quand même très mal. Donc,
C'est un roman.
Mais c'est un roman à une époque où ce genre de jeu était assez pratiqué.
On n'a pas le temps.
Ça nous protège finalement.
Ah ben voilà pourquoi on travaille tant.
Je voudrais pousser un petit peu ce que je disais. Oui, parce que Freud finalement. Lui, il s'est intéressé au choix d'objets. Quel type d'objet on choisit? Il ne s'est pas demandé pourquoi on aimait. Il s'est demandé quel type d'objet on choisit. Alors, il y a toute l'histoire narcissique, paréteillage. Alors là, effectivement, on peut développer. Mais au fond, on choisit tout ce qui peut boucher la faille. Hein, et le drame de l'amour, c'est qu'au fond... on dit il est narcissique, oui il est narcissique, je l'ai souvent dit aussi, hein, donc je critique pas ça, il est narcissique, mais à ce niveau-là il échoue toujours, parce que rien ne peut boucher la faille, et donc à la fois on peut en rire de l'amour, d'ailleurs c'est clair, hein, on peut faire rire avec l'amour, avec toutes les formules jolies que vous avez trouvées, et en même temps c'est dramatique. C'est dramatique, ce besoin d'être éperdu qu'il y a dans l'amour et qui taraude les humains.
Donc c'est la... qui ne peut pas ne pas les tarauder.
Non, sauf dans certains cas, oui, ça peut se tempérer quand même.
Les 100 voix, hein. dit j'écris ça, il dit, enfin, je m'attendais à ce que peut-être tu fasses un petit commentaire sur ce point. Il dit bah, après terminé, ni amen, ni ainsi soit-il. C'est-à-dire que c'est quand même une référence aux religieux. Et si l'amour s'est bouché la faille, Lacan dit je ne dis pas. Ni amen, ni ainsi soit-il. Donc ça nous donne une indication, puisque au fond la première phrase étant ça n'est pas le signe de l'amour, la deuxième phrase ne dit pas ce que c'est, mais il donne une indication. Enfin bon, moi c'était comme ça que j'entendais cette répétition de ni amen, ni ainsi soit-il. Voilà.
Je vais essayer d'énoncer ce qui me coupe le sifflet. Et c'est que la dernière fois, partant de cette phrase qui a été commentée par Colette Soler la dernière fois, c'est une phrase où il est question de la jouissance et de l'amour. La jouissance n'est pas le signe de l'amour. La dernière fois, Colette Soler nous a parlé de la jouissance et de ce qui amène les corps à aller au lit. Et aujourd'hui, vous ne nous parlez que de l'amour, finalement. Aucun de vous n'a parlé du lit. Et entre les deux et ben, je trouve que le c'est un grand écart, il y a une béance là, une faille. Comment est-ce que vous réarticuleriez la jouissance dans ce que vous avez dit, ou alors n'a rien à y faire?
C'est-à-dire comment on réarticule la jouissance à l'amour? C'est ça ta question.
Oui, Colette va répondre.
J'ai l'impression qu'elle a répondu.
Oui.
J'ai l'impression qu'Agnès a répondu à la question.
Je sais plus.
Je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit.
Ça, c'est bien d'accord. Oui, peut-être. Qu'est-ce que j'en ai dit qu'est-ce que je peux redire de ce qui...
On avait parlé en commentant le troisième paragraphe.
Oui, oui, bien sûr, mais je suis assez d'accord avec Marc pour dire, voilà, en tout cas, voilà, peut-être ça, la jouissance ne répond pas. Hein, puisqu'il dit qu'est-ce qui répond à l'amour, la jouissance ne répond pas. C'est quelque chose qui isole et qui n'est pas dans le champ de la réponse. Mais je n'en dis pas plus, si c'est ça que tu veux dire. Et c'est vrai.
Vous avez dit l'amour, mais c'était mort de la jouissance.
Oui, oui, mais il faut distinguer aussi désir et jouissance.
En même temps, justement, dans le cher Valmont, c'est quand même en sortant des bras de la dame, après l'avoir consommé, qu'il se rend compte de ce qui lui arrive. Donc là, il y a... c'est quand elle a...
Il s'est rendu compte... Oui, il s'est rendu compte avant. Non, ce qu'il dit qui est nouveau pour lui, c'est que le...
Justement, le plaisir n'est pas tombé avec la satisfaction. Donc là, effectivement, oui, là, il était question du lit. Et je t'aime, moi non plus, les questions du lit. Mais enfin, c'est un paragraphe où il est surtout question d'amour, précisément. Dans le paragraphe qu'on avait à commenter.
Oui, moi je crois que dans ces paragraphes, c'est Lacan qui écarte la jouissance du registre de l'amour. C'est absolument certain. C'est-à-dire que il en fait deux registres du par-lettre complètement différents, sans jonction nécessaire. Ce qui fait que le problème, c'est comment se fait-il que dans certains cas, la jouissance et l'amour ne s'excluent pas? C'est ça le problème. Le vrai problème clinique, c'est celui-là. C'est pas c'est pas leur non-rencontre. Leur non-rencontre, il est structural. Et finalement, Valmont, je trouve, irait bien à l'appui de cette thèse-là, de l'opposition des registres. Parce que toutes les liaisons dangereuses, c'est quand même construit sur ce couple de cyniques, ce couple cynique qui ne croit qu'à la jouissance, qui ne vise que la jouissance et qui s'amuse à piétiner en quelque sorte la naïveté d'une jeune fille qui croit à l'amour. Et donc leur entreprise, c'est de démontrer que l'amour, c'est rien du tout et que ce qui compte, c'est la jouissance. Et alors, l'énamoration de Valmont, au-delà du fait qu'il l'a possédée et tout ça, mais en effet, comme le voit bien Madame de Merteuil, met leur dément l'entreprise en quelque sorte. Et donc, il montre que cette dimension de l'amour, autonome, différente, elle ne se maîtrise pas plus que la jouissance elle-même, à vrai dire. Donc, ça va dans le même sens. Hein.
D'autant que leur jouissance, c'est vraiment de piétiner l'amour et de piétiner l'autre dans sa naïveté de croire à l'amour. Hein.
Oui, oui.
C'est pour ça que c'est un grand échec, le fait qu'ils tombent amoureux. Mais pour revenir à... Alors, par rapport à Althusser, moi, je dirais que la jouissance, c'est vrai, c'était plus difficile d'en parler dans la mesure où... Il fonctionnait avec Hélène uniquement dans le registre de l'amour d'un côté, et que tout ce qui était de l'ordre du sexuel était quasiment relégué à d'autres femmes. Hein. Il était assez bien organisé pour ça, d'une part. Ce qu'on peut dire, c'est que pour lui, il y a eu une rencontre du sexuel et la jouissance avec Hélène, hein, donc quand il avait 27 ans, la première fois qu'il a fait l'amour. Et ça a été suivi de sa première vraie déconnexion. Il avait fait des crises dépressives auparavant, en captivité, etc. Mais la captivité avait sur lui une fonction plutôt de le tenir, hein, de le maintenir. En 46 ou 47, il fait pour la première fois l'amour, donc à 27 ans avec Hélène. Il décompense sur un mode psychotique. Hein, carrément. Alors selon les auteurs, soit sur le mode paranoïaque, soit sur le mode mélancolique. Et après, la jouissance qu'ils vont partager, je dirais, c'est une jouissance psychotique d'être toujours en but à la mauvaiseté de l'autre. Je veux dire, quel que soit leur parti pris, hein, qu'ils soient du côté de l'Église, pour lui Althusser jusqu'en 48 quand même, hein, dans les mouvements catholiques de gauche, que ce soit le Parti communiste après, que ce soit dans ses rapports avec les mouvements psychanalytiques, c'est toujours être en but à la mauvaiseté de l'autre, mais en créant cette position où il va être obligatoirement en but. Je veux dire, il va, dans le Parti communiste, il va développer une philosophie allant du côté du maoïsme, mais en restant au PC. Dans l'Église, il va développer des théories marxistes, mais en restant jusqu'en 48 dans l'Église. En psychanalyse, il va promouvoir Lacan en le faisant venir à Normal Sup et en intéressant un certain nombre de ses élèves, dont Jacques Alain Miller, à l'enseignement de Lacan, etc. Mais il va poursuivre son analyse avec Dyatkin jusqu'au bout. Enfin, il est toujours dedans et dehors, un pied dedans et un pied dehors. La meilleure façon, quand même, de se prendre des claques des deux côtés, quoi. Et Hélène, exactement de la même façon, a cultivé dès le début cette position de jouissance, de jouir, d'être joui par l'autre, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à Boucher Lafaille, ce qui est remarquable chez Louis Althusser, c'est qu'il s'est d'abord servi de la religion, parce que ça a été un militant catholique très engagé, enfin, me dire, c'est pas été un tiède, puis de la philosophie et de l'engagement politique du côté communiste, et puis il y a eu l'amour. Alors, L'amour, c'était Hélène. Il n'y a pas de... Vous lisez les 700 pages de ses lettres. Il n'y a pas de doute. L'amour, c'était Hélène. Il y a eu d'autres femmes, mais c'était c'était pas pareil. Alors, un amour mort, je sais pas. Enfin, j'ai...
L'applique pas spécialement.
Mais j'ai... Parce que quand vous lisez ça, c'est quand même. Alors, il y a cette dimension effectivement mortifère qui est permanente là autour pendant 30 ans, mais il y a aussi une espèce de passion, de force, de férocité qui est très vivante. Non.
Alors. Passion qui ne laisse pas sa place au désir. Par contre, sa bonté, on envoie les ravages à la limite, ça pourrait s'appliquer à cette affaire-là.
Un amour sans désir.
Alors, c'est une question.
Oui, un amour sans désir, donc un ravageur.
À vrai dire, moi je vois mieux, dans la discussion, je vois mieux la logique de la page tout à coup. Qu'est-ce qu'il nous dit au fond, quelle est la source et de l'amour et du désir? Ils ont la même source, pas le même, la même source, l'autre. C'est pas le même point dans l'autre. Il le précise pas là, mais bon, on le sait. Donc, mais désir et amour, on sait d'où ça vient. Ça vient de l'autre. Le désir est désir de l'autre, et l'amour surgit de la faille dans l'autre, cette faille qu'il a appelée manque à être au départ. Bon. Par contre, la jouissance, on ne sait pas d'où ça sort. C'est ça qu'il nous dit. D'où il insiste. D'où part ce qui est capable de répondre? D'où ça vient la réponse de jouissance?
C'est la phrase d'après.
Oui, c'est la phrase immédiatement après. Et donc, c'est dans la logique du paragraphe précédent. Pour l'amour et pour le désir, ça vient de l'autre, la source. Et puis, la jouissance, entendons bien que c'est la jouissance du lit, hein, du corps à corps. Ben, celle-ci, elle y est des fois, elle y est pas toujours.
Absolument.
D'où ça sort? Et il essaye de répondre à cette question. Il essaye après de répondre à cette question. Alors, je voudrais dire une autre chose sur Althusser. Les lettres d'Althusser, pas de doute, c'est des lettres d'amour. Mais ne perdons pas de vue ce que c'est qu'une lettre d'amour. Une lettre d'amour, c'est pas l'amour. Attention, la lettre d'amour, c'est un exercice très particulier, et comme il le dit plus loin, parler d'amour est une jouissance, donc c'est un exercice autonome qui n'a pas grand-chose à voir avec le partenaire en réalité, et qui même annule le partenaire, la lettre de l'amour. C'est si vrai qu'il y a eu des époques où on faisait écrire les lettres d'amour par les autres, et qu'il y avait des spécialistes dans la rédaction des lettres d'amour, et que les plus belles lettres d'amour ne sont pas venues des amoureux. Beaucoup d'amoureux ne savent pas écrire de belles lettres d'amour. Il faut être très froid pour écrire des lettres d'amour. C'est des questions d'investissement et de placement de la libido. Quand on écrit, quand on fait des phrases, c'est pas le même investissement que... Donc, quand même, je trouve que...
On y reviendra sûrement. Alors, moi, je voudrais revenir un peu encore en amont sur... Martine l'a dit et je voulais l'interroger là-dessus, enfin on l'entend souvent, il y a une incompatibilité entre amour et désir, hein, d'après Freud. Et je me demandais si le terme incompatibilité était juste, si c'était le bon terme. D'autant plus que vous venez de dire, les deux, au moins il y a une chose qui est commune, c'est que tous les deux ont leur source dans l'autre, de manière différente. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai mal compris.
Peut-être que Freud...
Oui, je crois que José Mattei l'avait formulé un peu comme ça et Martine l'a formulé comme ça, non?
Oui, enfin, c'est pas l'incompatibilité, c'est que...
On entend que souvent quelque chose... Oui, que ça ne se rencontre pas forcément, c'est pas pareil qu'incompatible.
Oui.
C'est ça.
C'est pas la même chose, ça ne se rencontre pas forcément, mais... Incompatible, ce serait aller trop loin.
D'accord.
Ça correspond pas.
N'allons pas si loin.
Non, mais ça correspond pas.
Oui, absolument.
Mais moi j'ai une question.
C'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire incompatible.
Et quand on dit que l'amour vient de la faille dans l'autre et que le désir, c'est le désir de l'autre, si l'autre désire, c'est qu'il est manquant. C'est-à-dire que quelle est la différence dans le fond entre la faille dans l'autre et le manque dans l'autre? Est-ce que l'amour et le désir ne surgissent pas du même endroit en fin de compte?
Une question qui se pose en fait.
Moi, j'ai pas la réponse, mais c'est la question qui me vient là vraiment. Quand on dit que le désir est le désir de l'autre, si l'autre désire, c'est qu'il est manquant. Donc, quelle est la différence entre le manque et la faille un autre plein, complet, ne désire pas.
Je crois que là, on tombe sur... c'est quelque chose que je suis en train de commenter en ce moment. On tombe sur le fait que Lacan garde les mêmes expressions à des époques où il dit des choses fort différentes. Et il garde la même expression pour le dire. Et le désir et le désir de l'autre en est un exemple tout à fait certain. Parce que quand il dit au début le désir et le désir de l'autre, c'est pour dire le désir est l'effet de la chaîne signifiante. C'est l'effet de l'intervalle entre les signifiants. Il y a un vide, il y a un X. Donc le désir, il est effet de l'autre, chaîne signifiante. Et c'est là-dessus qu'est construit tout le graphe du désir. Hein, le désir entre les deux. Vous l'avez évoqué, Agnès. Hein, entre les deux chaînes, etc. Bon. Donc avec ça, on a énormément de développement. On a tout le commentaire d'Antigone est impensable si on n'a pas cette thèse-là en tête. Hein, le désir d'Antigone, c'est le désir inscrit dans la chaîne familiale des labdacides, etc. Bon. Donc, on a une première conception chez Lacan du désir-désir de l'autre. Ça vient de l'autre comme lieu de la chaîne signifiante. Et donc, ça articule le sujet à ceux qui ont articulé la chaîne signifiante avant le sujet. Bon. Et puis après, vient, et il y vient, il y a des ébauches et tout, mais à partir du séminaire de l'angoisse, c'est tout à fait autre chose. C'est l'autre produit la soustraction de l'objet A. Donc c'est pas, et ce n'est pas l'autre de la chaîne. Hein? Et donc on arrive à la formule l'objet A cause du désir. Hein? Et l'objet A, une entrée de l'autre, avec le 1 de signifiant. Il dit ça au début de RSI. Alors ici, quand il dit le désir et le désir de l'autre, on est à une date où il est évident qu'il est sur la théorie de l'objet à cause du désir qu'on trouve à la page suivante après à l'occasion de la perruche de Picasso. Hein? Et donc c'est pas le même point de faille. Hein? La soustraction de l'autre, c'est une chose, c'est une soustraction dans le vif du vivant, dans la chair. Le manque à être que génère la chaîne signifiante, c'est pas dans la chair, c'est du sujet, c'est du subjectif. Voilà ce que... Mais ça n'est pas dans ce texte-là, hein. Oui. C'est parce que tu posais la question que...
Oui, c'est pour ça que j'ai remarqué... Ouais, c'est pour ça, c'est vrai. Je fais le lien en tout cas avec ce que j'avais remarqué, que le complément de la phrase à quelqu'un qui n'en veut pas vient après le séminaire 10. Et là, c'est peut-être un peu trop amassé dans mon texte, mais c'était ça que je voulais dire quand même, que effectivement là c'est parce qu'il y avait cette après le séminaire 10, il y a cette idée qu'il y a l'objet cause perdu et qu'on n'est plus dans un registre strictement de phallique. Où ça pouvait être encore dans donner ce que l'on n'a pas, on pouvait interpréter ça encore dans le registre phallique. Si on rajoute à quelqu'un qui n'en veut pas, là, c'est plus possible. Il y a...
Prenez l'un ou l'autre.
Oui, alors, pour revenir sur cette phrase que Colette a commentée la dernière fois, donc la jouissance de l'autre, du corps de l'autre qui le symbolise, n'est pas le signe de l'amour. Je me suis aperçue que je m'étais emmêlé les pieds, alors que Colette avait parfaitement donné tous les éléments pour le comprendre. C'est que j'avais pris jouissance du corps de l'autre au sens d'un génitif subjectif, c'est-à-dire ce que Lacan appelle la jouissance extatique, dans sa note extatique, et non pas la jouissance que l'homme prendrait au corps de la femme, c'est-à-dire la jouissance dans sa note, disons, sadienne, pour lire comme Lacan le... Donc c'était de là que venait mon embarras. Et évidemment, il n'y a aucun doute qu'ici, c'est le sens du génitif objectif, jouir du corps, voilà. Mais c'est fort différent, évidemment, un corps qui jouit et un corps dont on jouit. Mais un corps qui jouit peut être une réponse, peut faire réponse, après tout.
Quoi ? Oui.
Ben justement, c'est exactement. Colette, c'est exactement ce que je me demandais quand il dit, ça n'est pas non plus une réponse suffisante. À quoi ? Eh ben voilà. En effet, à quoi ? Dans puisque là c'est le texte que vous avez commenté.
Parce qu'il parle comme les rabbins, j'ai une réponse,
il y a
une question.
Qui a la question et la réponse, il y a une question.
En tout cas, c'est pas quand. Oui. Non, juste comme ça, tu me dis une réponse à quoi ? J'en sais rien, mais ça peut être, disons, le signe de l'amour aussi bien, dans ce cas de figure-là.
Quoi ?
La jouissance au sens extatique, au sens. Pourquoi pas, quoi ? Bon, enfin voilà. Excuse-moi, je t'ai tué.
C'est très religieux.
En fait, j'ai tort de dire réponse à quoi, parce que quand il dit la réponse qu'elle peut constituer, c'est pas la réponse à une question. C'est que dans le corps à corps, la jouissance, on peut dire la jouissance répond ou pas. Elle répond pas à une question. C'est au sens absolu. Elle est là ou elle est pas là. Bon, donc. Elle n'est pas nécessaire et elle n'est pas non plus suffisante. Alors, en quoi elle n'est pas suffisante ? Ça veut dire qu'elle ne suffit pas à étancher la demande d'amour, hein ? Même si elle est là. Donc, là, il n'y a pas d'équivoque dans ce paragraphe. Elle n'est pas nécessaire, ça veut dire qu'elle n'est pas assurée. Ce n'est pas quelque chose qui ne cesse pas de s'écrire. Hein ? C'est une fois oui, une fois non. C'est pas suffisant, ça n'étanche pas l'amour. Donc il creuse la place pour la réponse qu'il veut essayer de trouver, d'où ça sort. D'où ça sort. Et on verra s'il y répond.
Soit d'accord à cette première étape de lecture, la deuxième séance. La jouissance du corps de l'autre n'est pas le signe de l'amour, c'est clair. Mais la jouissance du corps de l'autre n'est pas non plus le signe du désir.
Non.
Oui.
En effet,
on est d'accord là-dessus aussi.
C'est expérimental, ça.
Martine, explique. Explique.
En quoi ? Ah oui, là,
c'est une expérience courante.
Mais qu'est-ce que tu veux dire ?
C'est pas parce qu'on désire pour des conjoints.
Quelque part,
le désir, il mène au lit.
Oui.
L'amour ne mène pas au lit.
Tiens, prends la main.
Oui.
Je cherche des formules claires.
Soyons clairs.
L'amour. On sait très bien, tout le monde aime, mais ça ne mène pas au lit à soi tout seul.
Hein?
Bon, oui, c'est ça, exactement. Ça fait de la poésie et
voilà.
Tout ça. Bon.
Voilà.
Le désir mène au lit.
Mais pas à la jouissance,
hein?
Forcément.
Le désir mène au lit, et la jouissance répond ou pas.
Oui.
Et la question est, quand elle répond, d'où ça sort ? Ça devient bien net, hein?
Mmh. Oui.
C'est pas réellement une question, mais j'avais lu quelque part chez Lacan, je ne sais plus dans quel texte, il reprend ces termes de la réciprocité, en fait. Et en fait, il dit que aimer, ça veut pas. Enfin, que la réciprocité ne veut pas dire qu'aimer, c'est être aimé par l'autre. Ça, la réciprocité ne veut pas dire que quand on aime, on est aimé en retour par l'autre.
Absolument pas, oui.
Et voilà. Et dit je n'ai jamais dit un truc pareil. Non, voilà, je trouvais ça.
Oui, il y a une maîtrise.
C'est pas être aimé par
l'autre. Par contre, la phrase un peu énigmatique.
Oui, de l'amour et de la...
qui me reste énigmatique, à moi, c'est même pour ça qu'on a inventé l'inconscient.
Ah oui, j'ai glissé dessus.
Là, pour saisir la logique de cette incise...
C'est insupportable. La première lecture, vraiment... Disons-le.
Oui, on peut dire.
Je dirais comme ça. Je dis l'inventeur de l'inconscient, c'est Freud.
Et ah bah oui, bien sûr.
J'ai cherché à rattraper le pour que ça me revienne. Voilà, l'amour de transfert. Que, enfin, c'est pas faux, mais je pense que c'est. Il y avait tellement à faire que j'ai pu surfer là-dessus, mais oui, il y a sûrement autre chose. Il veut sûrement dire autre chose aussi.
Ouais. Bah, la phrase a l'air de dire au fond que on a inventé l'inconscient. Pour rendre raison du fait que que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Hein. Bon, et donc effectivement, pour Freud, ce qu'il appelle l'inconscient, c'est le désir inconscient.
Oui.
Hein, donc c'est ce qui est curieux. Enfin, je veux dire, c'est pas si énigmatique. Freud, il découvre le désir inconscient.
Hein. Dans l'amour de transfert. Et il dit c'est du transfert, donc il y a de
l'inconscient. Il le découvre dans l'amour de transfert, il le découvre, fin de l'interprétation des rêves, c'est parfaitement découvert, il en a énoncé la structure, la genèse et tout. Donc après, ça se met en jeu dans le transfert, bien sûr. Mais ça, c'est plutôt Lacan qui nous l'a appris que Freud. Freud n'a jamais parlé du désir dans le transfert, pas du tout. Il parle de l'amour.
Oui, moi aussi. Oui, il parle aussi de l'amour. D'abord, il parle de l'amour et il dit, à partir de l'amour, l'amour est toujours réciproque. C'est même pour ça qu'on a inventé l'inconscient. Et après, il passe au désir.
Ah, vous parlez de Lacan. Moi, je parle
de Lacan. Voilà.
Non, j'ai dit c'est énigmatique. Je veux préciser ce que je trouvais énigmatique. Je ne trouve pas énigmatique, alors, je prends l'envers. Je ne trouve pas énigmatique le joint qu'il établit entre l'inconscient et l'idée que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Bon, ça, c'est pas énigmatique. Freud, il a découvert, au fond, le désir inconscient dans la chaîne des paroles analysantes ou la chaîne... qui se construit autour des symptômes, etc. Donc, d'une certaine façon, on peut bien dire qu'il n'était pas loin de toucher ce que Lacan formule en disant le désir, c'est le désir de l'autre. Hein. C'est le désir de l'autre de la chaîne. Bon, ça, c'est pas énigmatique. Mais il dit, c'est pour ça qu'on a inventé l'inconscient, pour s'apercevoir. Comme si il y avait une finalité... Une finalité à ça. C'est ça que je trouve étrange. Absolument. C'est la forme rhétorique de la phrase. Enfin... Rien de plus.
Oui. Est-ce que ça ne veut pas dire que l'amour tout réciproque qu'il soit laisse sa place au désir, justement?
Ah oui, ça il le dit après.
Oui, mais c'est ça qui vient même parasiter la réciprocité.
Si c'est là que les passions qui peut être l'ignorance.
Oui, travers.
Oui, c'est pour ça que les ravages dont il parle, comme l'a dit Agnès, on ne sait pas
si c'est du désir ou de l'amour.
La syntaxe.
Au début, moi je pensais que c'était du désir, parce qu'on dit on entend les ravages du désir, mais en fait non, ça permet pas du tout de trancher, et qu'au fond on voit des amours ravageurs en désir.
Bah, c'est surtout le ravage, c'est surtout que la passion de l'amour permet d'ignorer le désir. C'est ça le ravage de l'amour. Un grave ravage par rapport au savoir.
Il y a une invention justement qui concerne l'amour, qui vise à éviter le ravage et qui interroge aussi le désir. C'est l'amour courtois. C'est quand même une invention. C'est quand même un art. Ça rejoint. Enfin, on invente en quelque sorte quelque chose. Là, ce qu'on invente, c'est l'amour. À une époque où, faut bien dire, les ravages étaient d'un autre ordre.
Parce que le désir, lui, n'est pas toujours réciproque. On est d'accord.
Il suit son idée fixe. Son idée fixe.
Oui, je voulais juste faire une remarque, parce que dans la discussion il y a un peu une idée récurrente en fait d'opposition amour et désir. Et je voulais faire la remarque en fait que dans les séminaires Le Transfert, Lacan en fait qui va reprendre en fait cette question de l'amour à partir de Bonquet, en fait il souligne justement ce qui était indiqué par Colette Solaire déjà dans Le Transfert, comme quoi Eros indique l'amour, mais indique aussi le désir, c'est-à-dire c'est la même source. Et il va souligner quand même que la trouvaille importante en fait de Socrate, c'est justement de souligner la fonction désirante de l'amour. Et là, justement, montre bien que ce n'est pas forcément une relation d'opposition, et qu'en quelque sorte, en fait, parce qu'il reprend quand même la phrase de Socrate qui interroge voilà, les odes à l'amour en fait, des convives, pour demander, mais amour de quoi? Et donc, à partir du moment où on pose la question, on interroge amour de quoi, ce qui disait amour laisse sa place au désir, justement. Et donc, déjà dans le transfert, ce n'est pas une relation d'opposition. C'est, de mon point de vue, un peu plus compliqué que ça. Voilà.
Mais le désir de Socrate, ce n'est pas un désir du lit, il me semble. Hein. Socrate désire, c'est pas d'ailleurs la façon dont il rembarre Alcibiade. C'est pas un désir du lit, c'est un désir de savoir. Oui.
Non, c'est certain, Carlos a raison, il n'y a tellement pas d'opposition, c'est qu'on trouve sous la plume de Lacan, et ce n'est pas une fois en passant, c'est sa thèse fondamentale, c'est que dans le transfert, le rapport du désir du patient au désir de l'analyste, il est véhiculé par l'amour de transfert, il court sous l'amour de transfert, il est le signifié secret de l'amour de transfert, le rapport du désir au désir. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle qu'on a besoin du désir de l'analyste, du concept du désir de l'analyste, et à cause de cette thèse-là. Bon. Ceci dit, effectivement, Socrate ne serait pas un bon exemple, parce que ou ce serait un exemple qui montre quelque chose qui rentre dans notre discussion. Parce que l'amour et le désir dont Socrate se fait l'apôtre, si je puis dire, hein, c'est celui de ce qu'on appelle la philia grecque. Et que dit Lacan de la philia grecque dans ce même séminaire? C'est une éthique hors sexe. Ça veut dire qui exclut, qui forclôt la référence au sexe. Non seulement à l'autre sexe, mais aussi à la jouissance sexuelle, même homosexuelle. Donc, là, Socrate il nous, et la philia grecque, ça illustre plutôt l'autonomie des deux dimensions. Hein, cette fameuse autonomie qui a l'air de te chagriner, Marc. Bon. En tout cas, de t'interroger. Mais, là, on en a un exemple. Alors, pour l'amour ignorance du désir, vous aviez l'air de dire que vous ne compreniez pas.
Non, c'est une phrase.
Hein?
Ça fait beaucoup travailler.
Oui, non, mais vous... effectivement, l'amour dans sa quête d'être a une visée, cherche à combler la faille. Cherche à combler la faille. Et comme le désir, ça s'inscrit de l'impossibilité de combler non pas la faille, mais la perte de l'objet, évidemment, il y a un lien entre l'amour et le « je ne veux pas savoir » et le « ne pas vouloir savoir ». La passion de l'ignorance est présente dans l'amour.
L'amour comblant peut éviter le désir pour ne pas se confronter au manque. On pourrait dire comme ça.
Au manque du désir. Parce que la manque, elle a... Ouais. Ouais. Oui, oui,
oui.
Oui, je voulais rajouter que effectivement, je partage cette question sur la question de l'amour et le désir, effectivement, qui ne fait pas référence à la rencontre sexuelle dans le transfert. Ceci étant, ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'il n'avait pas forcément une relation d'opposition. Parce que, disons depuis tout à l'heure, quand même, on discute en fait à partir de trois termes, en fait, c'est désir, amour et jouissance, et qu'il me semble en fait que pour Lacan, il y a plus une relation en fait de, pas d'opposition, mais disons presque en fait de irréconciliable en fait entre la jouissance et le désir, et ça c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, il avance justement la thèse comme quoi l'amour peut faire condescendre justement le désir à la jouissance. Voilà, et donc. La jouissance au désir, pardon. Voilà, la jouissance au désir. Et là, on voit bien quand même que l'amour, en fait, il est placé différemment, en fait. Et que ce n'est pas forcément dans sa relation d'opposition. Voilà, c'était juste par rapport à ça.
Oui, c'est une formule pour illustrer les cas heureux où les trois dimensions se rencontrent.
À vous.
À suivre.
À suivre dans deux semaines.
À suivre dans deux semaines le 14, le 12, le jeudi 12 décembre.
Oui, parce que c'est ligne après ligne. C'est intéressant.
Moi, je vais boire un coup.
Ah, bah oui, on a bien travaillé.
C'est bien.
Intéressant.